Bonsoir à tous, vous êtes bien calés sur le 97.1 de Couleur FM, la radio de Bourgoin-Jallieu et d'ailleurs, parce que nous pouvons également, vous pouvez également nous écouter sur le site internet www.couleurfm.fr. Voilà, vous êtes sur les itinéraires bis, comme tous les jeudis en direct à 20h en compagnie de Gérard et Laurent.
Bonsoir Gérard.
Salut Laurent, la forme ?
Bon ben comme toujours.
Comme toujours.
Et il faut.
Il faudra sortir bientôt les chaînes, je crois.
Ah ben on va bientôt sortir déjà la grosse baisse.
Sur les itinéraires bis, il devrait neiger normalement, c'est pas mal ça la neige un peu en fait, l'hiver. Hein.
J'aime pas trop sur les routes.
Ah, t'aimes pas trop. Et puis ce soir, pas de Lynn, hein, donc elle nous a lâché encore une fois, donc on lui fait un gros coucou, on l'embrasse et puis on va la retrouver certainement la semaine prochaine pour un spécial SILAC 2016, c'est ça Laurent ?
Ben, tout à fait, hein, enregistré.
Avec des interviews et puis bien sûr de la ZIC, hein, du dernier festival SILAC de Saint-Maurice de Gourdan. Ce soir, nous recevons des Lyonnais du groupe Porn, mais pas que, avec
Philippe
et
Hervé
du groupe
Orage Red et voilà. Porn à la fois.
Et Porn, bassiste de Porn.
C'est bassiste ça. De Porn depuis quelques mois en fait. Voilà.
Bon, ça se passe bien.
Ah, ça se passe très bien en fait.
L'intégration, c'est bien.
Ouais, bah.
Il y a eu le bisutage habituel.
Bisutage habituel.
On peut pas dire à l'antenne comme
ouais,
ça.
Ouais. Non, voilà, non. On peut pas le dire. Enfin, avec une seule bière, on pourra pas le dire quoi. Mais ouais, très bien en fait.
Bière sans alcool. Hein.
Ouais, sans alcool.
Sur les itinéraires bis. Alors Philippe, c'est quoi l'actualité ? Là, vous êtes descendu de Paris il y a deux jours hein, pour un concert au Petit Bain.
Exactement. Ouais. Donc on était en concert avec Christian Def, donc le mythique groupe américain. Et en fait, on les rejoignait sur Paris. On avait déjà joué avec eux il y a quelques semaines là, à Lyon. Et voilà, c'était une belle date avec un groupe de légendes, on va dire, que moi, pour ma part, j'écoutais quand j'étais adolescent. Donc c'est toujours, c'est toujours alors, amusant ça... et
fait,
étrange.
Ça fait quoi hein, c'est...
Bah c'est cool.
C'est cool.
non, c'est cool. Ouais, en plus, souvent, ça arrive que tu rencontres des gens que tu, entre guillemets, admirais par leur travail artistique.
T'as vu leur poster dans la chambre, non?
Non, j'avais pas de poster. C'était quand même un groupe assez underground, donc ils bénéficiaient pas d'une grande médiatisation en France. C'était quand même un groupe qui était connu internationalement et l'inventeur quasiment d'un style de musique qu'on pourrait qualifier de death rock ou gothic rock. Et c'était bien dans le sens où c'était une bonne rencontre, c'est des gens adorables qui, on va dire, avec les années de musique au compteur, sont des gens adorables qui sont reconnus dans le monde entier, c'est cool. Et ce que je voulais dire par là, c'est que des fois tu rencontres des gens, tu les admires, et puis tu te rends compte que c'est des connards que c'est des gens qui sont pas forcément super agréables ou autre. Et puis là, c'était cool parce que justement, la musique est à l'image, enfin, ce que tu aimes dans leur musique est à l'image de ce qu'ils sont. Donc c'était cool.
Et puis début octobre, donc un concert également sur Lyon, au Chaos.
Ouais, c'était ça, avec eux. Ouais.
Avec eux également.
Ouais. Et c'était la dernière fois qu'on avait joué au Chaos, c'était avec les Allemands de Oomph. Ça a remonté à 2006, je crois. Allez. Donc c'était marrant de revenir là-bas dans une toute autre ambiance. Donc c'était chouette.
Et le public alors parisien lyonnais c'est.
Eh ben les Parisiens sont un peu plus
timides quand même.
Ouais. Ils sont un peu plus timides. Souvent on dit que les Lyonnais sont un peu timides.
Froid,
ouais. Mais tu vois, on avait des gens qui chantaient certains passages des morceaux de Porn, donc c'était toujours cool, tu vois, sur Soft Machine.
Enfin, faut dire que vous êtes lyonnais également, hein, donc vous avez votre public.
Oui, mais non, en fait, enfin oui, on est lyonnais, mais en fait non, parce qu'on a fait plus de concerts. Donc depuis que Porn existe, on a fait plus de concerts à Paris qu'à Lyon.
D'accord.
On a toujours été un petit peu, on va dire, marginaux ou dans notre milieu. Et c'est vrai qu'on a beaucoup joué sur Paris parce que les gens avec qui on travaillait, donc les labels et les tourneurs, parce qu'à l'époque déjà on bossait avec base.
Si certains nous écoutent.
Ouais, on bosse déjà avec un tourneur aujourd'hui, ouais, donc avec quasiment le même qu'à l'époque, base production, et du coup on jouait régulièrement sur Paris. Je sais pas, on avait dû faire la Maroquinerie trois fois ou deux, l'Elysée Montmartre, Les Arts aussi, je crois, et à Lyon, c'était un petit peu plus, on jouait un peu moins souvent.
Bon, Philippe, t'es venu déjà plusieurs fois chez nous.
Ouais.
On te remercie,
merci pour l'invite.
Également venu avec Hervé, le bassiste de Porte, qui nous parlera également de son groupe.
Ouais, merci à vous pour l'accueil déjà.
Il n'y a pas de quoi. Et alors, un petit mot sur Pearl, alors que ça a commencé dans les années 90, c'est ça? Bon, si on fait un peu rapidement l'histoire pour les gens qui connaîtraient pas encore.
Ouais, alors ça, on va dire que ça a démarré dans les années 90, mais en 99. Donc, le gros vraiment de l'activité du groupe, c'est les années 2000. En 99, moi j'étais à Grenoble, donc j'étais un étudiant. Et puis j'avais envie de monter un groupe, donc j'ai acheté une guitare Jim Marley dont on parlait d'ailleurs.
Ouais, c'est clair, la fameuse Jim Marley
que j'ai acheté, qui m'avait coûté à l'époque, je crois, 900 francs. Il y avait un pote qui était avec moi à la fac, qui était prof de guitare, et du coup j'ai dit ouais, montre-moi des accords. Et il m'a montré les accords de basse en manche, et puis il m'a expliqué comment on faisait un barré. Et puis du coup, j'ai composé Soft Machine, Recycle, ce qui est devenu Stiff, Little Thing, et Don't Be a Lady, qui sont dans le premier album et qu'on joue encore d'ailleurs pour la plupart. Ensuite, j'ai déménagé à Lyon en 2001, et c'est là que tout a véritablement commencé. Auparavant, j'étais à Grenoble, et à Grenoble, il se passait absolument rien. En 2001, j'ai recruté le premier line-up du groupe. On a commencé à faire nos concerts. On a sorti une démo en 2002, je crois. La démo est sortie en 2002. Et avec la démo, on a trouvé un label qui était tenu par le directeur de Bass Production aujourd'hui, qui fait tourner Gojira, Mass Hysteria... plein de trucs, et du coup il m'a envoyé un mail en me disant j'aime bien ce que vous faites, envoie moi du son, parce que j'ai un label et j'ai envie de signer des trucs. Et puis du coup on a signé avec lui, il avait même pas écouté l'album d'ailleurs, et voilà. Donc on a commencé en gros, premier album 2004, après ça s'est un petit peu enchaîné, on a sorti un EP, ensuite une version de l'album est sortie en Allemagne, on est allé tourner en Allemagne, après une version de l'album est sortie en Australie, on n'y est pas allé par contre, et après on a mis un petit peu le groupe en stand-by en 2009, et puis le deuxième album en 2011, et puis voilà, et on est là.
Rapidement, on représente un peu tes camarades de...
Alors, aujourd'hui, donc c'est un tout... Un line-up. Aujourd'hui, alors, en line-up, ouais, il n'y a plus que moi du début. Il restait, on va dire du line-up originel, vraiment, vraiment des débuts. Donc, il restait Hugues, donc, qui était à la basse, quand on nous a proposé les dates là, qu'on a faites avec Christian Def, il m'a dit, non, ça me fait chier, j'ai plus trop envie. Ok. Donc du coup, Hervé, qui est ici présent, a rejoint le groupe. Hervé que je connaissais auparavant de par son projet Orage Red.
C'est comme ça qu'on s'est... Enfin, en fait, on se connaissait parce qu'on avait Mehdi en commun, en fait.
Oui.
Ouais, déjà.
Oui.
T'es de Mehdi. Lyon aussi.
Ouais. Moi, je suis pas lyonnais, je deviens progressivement lyonnais, ça va faire 10 ans que j'y suis. Mais en fait, il se trouve que je jouais dans un groupe avec un des guitaristes de Porn. Donc dans un autre groupe qui s'appelle toujours Afterglow d'ailleurs, dans lequel je ne suis plus, et en fait c'est comme ça que je connaissais Philippe. Et quand j'ai sorti mon premier EP de mon projet solo Orage Red, bon, on aura l'occasion d'en reparler, je suis allé voir Philippe parce que voilà, Porn c'est un groupe que je connaissais depuis longtemps, donc je suis allé le voir pour faire un remix. C'est comme ça qu'en fait on s'est un peu plus connus, on se connaissait déjà, mais voilà. Et puis quand j'ai sorti l'EP, Philippe a pas mal aimé l'EP, donc on s'est revu, on a commencé à boire des coups ensemble, on est devenus assez potes, et après ça s'est fait comme ça quand il y a eu moyen d'avoir la place de bassiste dans Porn. Moi ça me faisait plaisir de venir jouer, c'était super cool quoi, en fait. Voilà.
Ok, bon, voilà, maintenant les présentations sont faites,
ouais.
On va écouter un peu de musique.
Allez.
Tu proposes quoi alors maintenant?
Eh ben on va démarrer par Call Me, puisque justement
on
vient de sortir un clip donc de Call Me, et alors que le morceau est sorti il y a presque 10 ans, en fait on a eu l'opportunité de...
On va en parler après.
On en parle après.
Oui, parce que là on a beaucoup parlé
hein, donc. Les mecs veulent du son aussi quand même.
Darling, I never knew you are. Come on, let's go.
Eh oui, c'est les années 80, ça, 90, je me souviens plus trop.
De quoi, l'original?
L'original.
L'original. début 80, fin 70, je dirais. Ouais. C'est Moroder, d'ailleurs, qui avait bossé sur la prod avec, donc c'était Blondie. Enfin, c'est une reprise de Blondie, c'est Moroder, je crois. Et donc, on est sur une, quand même sur la période un peu disco-punk.
C'était pas mal. Bah, Blondie, ouais, à l'époque, elle avait fait des trucs quand même intéressants. Enfin,
carrément.
Donc là, donc toi, si tu as repris cette chanson de... c'était un appel à qui?
Non, c'était un appel à personne. En fait, c'était un morceau que j'écoutais pas forcément de manière fortuite. Mais régulièrement, c'est-à-dire que j'allais quelque part et ce morceau était à peu près toujours là, c'était assez marrant. Et du coup, j'aimais beaucoup le riff de base et le morceau en lui-même. Donc du coup, le truc est venu assez naturellement. En fait, ça m'a parlé tout de suite au niveau des arrangements. Je me suis dit tout de suite, tiens, je pourrais faire ça. Et l'idée aussi de reprendre un morceau qui était chanté par un sex symbole féminin, je trouvais ça marrant. Et parce que j'aime beaucoup Debbie Harry et pour sa prestation aussi dans le film Vidéodrome, je ne sais pas si vous l'avez vu, où elle joue une genre de d'égérie sadomasochiste, un film de Cronenberg. Donc du coup, voilà, ça s'est fait vraiment assez naturellement. Et comme je te le disais, donc là, il y a un clip qui vient
donc
de sortir.
Donc toi, je reviens, donc il y a une dizaine d'années, tu reprends cette chanson.
Oui.
Et puis maintenant, quand on était passé en début 80, 2005, et maintenant... Là, 2016, tu nous sors un clip.
Oui, sur ce titre-là. En fait, on a eu l'opportunité. Moi, j'étais en contact avec, avec un réalisateur qui était intéressé par l'idée de clipper un morceau de porn. Du coup, on n'avait pas encore d'album qui allait sortir, on va dire, tout de suite. Donc, du coup, il m'a dit, bah, tiens, pourquoi pas Call Me ? Et du coup voilà, c'est vraiment une histoire d'opportunité. À un moment donné, on s'est dit pourquoi pas. En plus, c'est un morceau qui a eu beaucoup de succès, qui nous a permis d'accéder à une certaine notoriété toute relative. Et quelque part, c'était aussi un moyen de rendre hommage à ce titre qui nous avait beaucoup aidé en tant que groupe, en lui offrant un clip, quoi. Donc voilà, avec une impression de job fait, tu vois, c'est-à-dire le morceau a été fait, on a l'opportunité de lui offrir un clip, et puis voilà.
Et sur l'aspect musical, vous avez fait des arrangements nouveaux, non? Par rapport
à l'original,
enfin l'original du ton non, original à toi.
Oui.
Si je puis dire.
Non, c'est le même morceau.
C'est le même morceau.
C'est le même morceau.
Semble, ouais. Comme je l'ai réécouté, ouais. Du coup, ça m'a.
C'est le même morceau, et je dois t'avouer que ça, en tant que musicien, c'est quand même extrêmement, extrêmement. Je trouve pas le terme, mais gratifiant. Je sais pas comment dire. En tout cas, ça me rend super heureux de me dire qu'il y a des gens qui le découvrent maintenant. Le morceau est sorti il y a 10 ans et ils s'en rendent pas compte. Et quelque part, ce qu'on nous reprochait quand on a démarré, c'est-à-dire pas être dans le moule, c'est-à-dire pas faire néo-métal ou du grunge, et ben quelque part aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de pouvoir ressortir certains morceaux et sans que ces derniers soient datés en fait.
Ouais.
Tandis que quand tu écoutes certaines autres choses, tu vois, qui étaient très très ancrées dans leur époque, et ben si tu réécoutes le morceau maintenant, tu sais exactement que ça a été fait telle année, tel truc, parce que les gens.
Ouais, parce que tu aurais pu dire, tiens, c'est un peu là ou là, faut qu'on retravaille, je sais pas, la basse peut-être.
Ouais, ben en fait.
Ça aurait été l'occasion, tu vois.
Ça aurait été l'occasion. Et ben en fait, non, et ça, c'est l'une de mes grandes. C'est l'une des choses duquel je suis vraiment heureux quand je réécoute un peu ce qu'on a fait auparavant. C'est le côté un petit peu intemporel, le truc qui traverse, parce que quelque part, comme on a toujours été, on va dire, à côté de ces grands mouvements qui avaient énormément de succès. Quelque part, eh ben, du coup, on sonne pas daté, quoi.
Parce que vous avez pas fait que celui-ci comme reprise, hein, vous avez fait d'autres.
Oui, des choses qu'on a sorties après. En 2015 avec Deconstruct, on a repris les Beatles et les Cure, puis The Cult.
Alors on travaille comment après, parce que c'est remixé, on travaille comment sur entre l'aspect studio, concert, c'est des morceaux qu'on.
Alors, en live, on a rejoué.
T'as rejoué ces morceaux, toi, du coup.
Ouais, mais en fait, on est en train.
Toi qui viens d'arriver.
En fait, si tu veux, le travail, il se fait un peu naturellement. C'est-à-dire qu'en gros, bon, Philippe, par exemple, tu vois, dans mon cas, il connaissait déjà un peu mon style de jeu. Bon, les morceaux, dans le cas présent, en fait, pour ce qu'on est en train de jouer actuellement, on a déjà la version studio, donc on sait à peu près où on veut aller. On arrive, on cale les parties, c'est-à-dire que il peut y avoir une différence par rapport à ce que tu avais en studio, mais on se met d'accord au début, on se dit voilà, ça serait bien ça, là ça serait bien là, puis après voilà, après on le fige et puis on fait un petit peu comme ça pour tout quoi en fait. Mmh. Et d'ailleurs on parlait des reprises, ben dans le set on va intégrer Leonard Rigby.
Ouais, la reprise des Beatles on va l'intégrer.
On va intégrer dans les prochaines dates on va la jouer. Hein.
Oui, oui. Après il y en a d'autres moi que j'aimerais jouer hein, comme la reprise de The Cure ou même celle de The Cult, mais on peut pas s'amuser à jouer 4 reprises sur un set de 12 morceaux.
Ouais.
Donc après faut faire j'ai des choix. Call Me c'est un classique, on peut pas ne pas le jouer, et puis les autres là on va intégrer Alan Rigby, mais peut-être qu'après on enlèvera la reprise des Cure, Lullaby
et les reprises d'un groupe français qui chante pas forcément français, mais
ça se pourrait. Après
tout est possible.
Moi je me refuse jamais rien. Tout est possible. Mais quand tu choisis, on va dire dans le répertoire, on va dire de tous les morceaux que t'aimes bien, bon ben tu te rends facilement compte que le nombre de morceaux que nous on aime bien qui pourraient être faire l'objet d'une reprise, il y en a quand même assez peu. Mais oui, il y a des choses qui sont très très bien en rock ou chanson française. Hein.
Puis il faut que ça colle un peu à votre. Vous, la définition, c'est du rock indus
Au sens large. Du rock industriel.
Mmh. Après, industriel.
Ce qu'on dit rock indus, mais après, c'est une.
Tous les morceaux que vous pourriez reprendre ne sont pas forcément dédiés à faire du rock indus. Non
en fait, c'est ça l'avantage du rock industriel. C'est qu'en soi, c'est un style qui n'existe pas.
Ouais, c'est-à-dire que tu as des filiations, un paquet.
Oui, voilà.
Un paquet.
Voilà.
Et donc, puis... tu peux aller piocher dans des ramifications qui parlent à tous les gens à qui le rock industriel parle, en fait. Pour un ensemble de.
Oui,
de styles,
alors
quoi.
Après, tu as toujours des références. Donc, tu vas plus ou moins sonner proche des Ministry ou de Nine Inch Nails. Là, je cite vraiment que les noms les plus connus, ou Skinny Puppy. Mais en soi, ce qui définit le rock industriel, c'est la quasi-absence de règles. C'est le seul style, et c'est pour ça que moi tout de suite quand j'ai démarré ma carrière musicale, je me suis orienté là-dedans, parce que c'est le seul style où tu peux faire un morceau où tu bourrines comme un salaud, tu peux même bourriner plus que n'importe quel groupe de death metal, où tu peux passer, faire d'un passage ultra-violent à un passage en guitare acoustique, et après tu peux rajouter des machines, où tu peux faire un petit peu tout ça, tout en gardant un cadre, on va dire rock et pop, sinon ça s'appellerait du free jazz, hein. C'est ce que John Zorn fait par exemple, lui il mélange de tout, mais là en restant dans un cadre rock ou pop, c'est le seul style qui t'autorise ça. Si tu fais un autre style, on va dire marketé au sens du nom, et que tu ne fais pas ce qu'on attend de ce style là et ben tu vas te faire incendier. Et ben dans le rock industriel, c'est le seul style où on t'autorise à faire tout ça, et quelque part moi je considère que la seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. Et je déteste quand on me dit oui mais il faut faire ça, ou ça doit sonner comme ça, ou ceci doit sonner comme ça. J'ai envie de dire mais d'où tu t'as lu ça, où ouais. d'où tu sors ça, et c'est ce qui extrait que le rock industriel, c'est que tu peux faire ce que tu veux en fait. Personne va te dire mais pourquoi t'as fait ça. Bah, je fais ça parce que je fais ce que je veux quoi.
Alors on fait ce qu'on veut également sur l'itinéraire Rebis. On va écouter un autre titre peut-être.
Ouais. The Fee par exemple.
Swam to the heat, seas breaks my brain. I see through your eyes like a mirror of my scene. When I not swam to the heat, seas breaks my brain. Trust can kill you and set you free. To remain, all these things.
Voilà, vous êtes toujours sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Itinéraire BIS. L'émission est en direct donc le jeudi, rediffusion le samedi à 21h, le lundi à 14h et en podcast sur notre site www.couleurfm.fr vendredi après-midi ou lundi selon l'humeur de Laurent. Voilà, et puis donc en compagnie de Philippe et Hervé du groupe Porn qui sont venus nous parler un peu de l'actualité, grosse actualité avec des concerts, des nouveautés à venir, pour surtout principalement pour 2017 en termes d'albums.
Oui.
Donc là, on vient d'écouter un autre titre, morceau de Porn.
Oui.
Alors l'évolution de ces albums sur une dizaine d'années passées, 15 ans, même de ta musique, tu la vois comment toi, l'évolution avec du recul? Parce qu'on parlait un peu de la musique du rock indus.
Oui. Comment je la vois, c'est toujours difficile d'avoir du recul en soi par rapport à ce que tu fais comme musique. Néanmoins, comme tu dis, il s'est passé surtout 10 ans, on va dire, parce que toute la période des débuts avant le premier album, on la compte assez rarement dans la carrière d'un groupe quand on parle de sa discographie, puisque toute la première partie, en fait, elle est condensée dans le premier album. Et quelque part, c'est un peu là que ça démarre. C'est à partir du 2-3e album que tu peux avoir un véritable recul sur ce que tu fais. Là, aujourd'hui, on est en train d'enregistrer le 3e album, en fait, qui sortira, on va dire, 12 ou 13 ans après le premier, qui est sorti en 2004. Ce que je peux dire sur cette phase de composition, c'est qu'on est sur une musique qui est un petit peu, on va dire, moins pop, un peu moins accrocheuse que ce qu'on a fait auparavant, avec des morceaux qui sont plus longs, qui s'éternisent sur 8 minutes, voire même quasi 10 minutes pour certains, avec des choses qui seraient peut-être plus proche de groupes comme Type O Negative ou Fields of the Nephilim, avec comme tu me le disais en off, un côté un petit peu plus lugubre. Et voilà, et ce que je te disais, c'est que c'est des choses que j'ai expérimentées avec un autre groupe que je mène en parallèle, qui est un groupe qui s'appelle An Erotic End of Times, quelque chose de plus métal et à la fois aussi un petit peu plus gothique, un petit peu plus lugubre. Et j'ai testé pas mal de choses en fait avec An Erotic End of Times. C'était un petit peu un laboratoire, notamment au niveau de ma manière de chanter, en testant des choses beaucoup plus graves en termes de voix, beaucoup plus sombres aussi. Et quelque part, ça m'a donné envie d'essayer de réapporter cette composante là dans le prochain album de Porn, et j'ai pas mal travaillé en ce sens. Voilà.
D'accord. Et puis en plus, c'est bon, il faut voir, c'est pas les mêmes musiciens du départ, donc forcément ça c'est un facteur qui peut jouer sur l'évolution de la musique.
Pas tant parce que je reste le principal compositeur sur ces deux albums là même sur celui qui est en cours d'enregistrement, donc ça n'impacte pas tant que ça. Là où ça impacte, c'est, on va dire, tout l'aspect live. Puisque tous ces musiciens, Hervé, etc., apportent une couleur live, une énergie, et c'est ce qui fait que, j'espère, en tout cas, c'est un projet que j'ai, c'est après le 3e album, essayer d'enregistrer un live pour essayer de capter, on va dire, une composante que l'on ne retrouve pas sur disque. Et voilà, parce qu'il y a des morceaux qu'on joue qui sont dans le premier album, comme Soft Machine ou Recycle, qui, sonne complètement, mais complètement différent en live. Et du coup, je me dis, tiens, comment ça pourrait sonner sur un live digne de ce nom, bien mixé, etc. Donc voilà, c'est surtout sur cette composante là que la couleur des musiciens apporte.
Et toi, Hervé, alors dans ton, puisque tu as un groupe un peu également en parallèle de Porn, tu travailles de quelle manière? T'es d'accord avec ce que dit
ouais,
Philippe?
Complètement, ouais. Ouais. Exactement. Et si tu veux,
on va mettre une étiquette sur ton groupe. C'est le style, c'est.
Alors, si on parle de Rashred, mon projet personnel dont on parlait tout à l'heure, ouais. C'est vraiment de l'électronique qui est relativement agressive et sombre, qui est teintée de ces influences, on va dire, qui viennent de l'industriel, de la new wave, beaucoup de métal, parce que j'ai grandi dans le métal, donc si tu veux, c'est quelque chose qui se ressent directement dans la musique, et puis un petit peu ce délire d'utiliser des synthétiseurs comme on utiliserait des guitares, et inversement, quoi. C'est-à-dire faire des trucs qui font comme ça avec des synthétiseurs. Des trucs, des choses assez agressives.
Il vient de faire le geste, en fait, pour les auditeurs. Mais
je fais le geste, là.
On le voyait pas, et ouais. c'était plus élégant que le geste.
Il y a la webcam, effectivement. Il y a la webcam, mais elle est pas.
Ah, ouais, c'est voilà, pour l'émission, c'est ça. Ce truc très agressif que tu ressens quand tu as la culture rock, qui est la gestuelle ou le ressenti que tu as avec une guitare, l'avoir avec des synthétiseurs, c'est quelque chose qui s'est fait aussi un peu dès le début dans la new wave, dans l'industriel, dans les années 80. Donc voilà, Rashred, c'est ça, c'est de l'électronique, c'est un peu large, mais ça reste agressif et sombre, et voilà.
Et vous êtes combien là?
Eh ben, je suis tout seul. Alors, je suis tout seul en composition. Donc, j'ai aussi un autre projet en parallèle dans lequel je fais de la basse, un groupe qui s'appelle Inbalance, tout ça, voilà, donc qui m'occupe aussi, quoi. Mais donc Rashred, c'est vraiment mon projet solo où je compose tout de A à Z. Et pour le premier EP, j'ai fait la production moi-même. Et en live, par contre, je fais intervenir une batterie acoustique. Donc c'est Alan Elenard, un ami à moi, qui joue la batterie, qui d'ailleurs est quelqu'un qui se fait un petit peu connaître sur Lyon parce qu'il est fabricant de batteries de haut de gamme. D'ailleurs, il est présent ce soir juste à côté aux abattoirs pour fournir une batterie aux Stereotypical qui sont en train de jouer. Donc voilà.
Ils jouent après.
Qui sont en train de jouer ce soir, après, oui. Après.
Oui, après. C'est oui, pour oui, les après. Auditeurs, ils pourront toujours y aller.
Voilà, ils pourront toujours y aller.
Pas maintenant, ils peuvent aller.
Ils peuvent toujours y aller après, ouais. Effectivement. Puisque les stéréos
oui,
devront
aller. Donc
il y a la concurrence
aller,
voilà. Ce soir.
Ils nous écoutent jusqu'à 21h et ensuite ils peuvent aller aux abattoirs.
Ils attendent 21h pour.
Voilà, ils attendent 21h et donc ils sont sages, hein, c'est bon.
D'accord, bah tout va bien alors pour toi donc aussi de ton côté.
Ouais, c'est une période où on essaye de faire de beaucoup de choses donc.
C'est nouveau ça. Ton...
Il va pas te parler de ses problèmes personnels, ouais. mais ça va.
Non, je te parlerai surtout pas de ceux de Philippe non plus quoi. Mais non, c'est une période où on essaye vraiment de faire un maximum de choses.
Tes projets c'est récent, c'est.
Non, c'est assez ancien. Si tu veux par exemple, Aura Shred, c'est un peu le démarrage d'un aboutissement personnel. Ça fait très longtemps que je fais de l'électronique. Tout seul chez moi, ouais. En fait, et c'est vraiment
dans ta chambre,
un truc exactement. Mais on est vraiment dans ce cliché là, ouais. C'est à dire que t'es gamin, t'as pas de blé, t'as un ordinateur, ça commence à se démocratiser, t'as un synthétiseur, tu fais des trucs, tout ça. Et moi, ça a toujours une volonté, comme beaucoup de gens, de faire ses disques soi-même. Aujourd'hui, c'est possible pour tout le monde, et donc Aura Shred, c'est là le premier EP. C'est le démarrage, mais après, il va y avoir un album, etc. etc. C'est vraiment un projet personnel qui me tient à cœur de longue durée.
Donc c'est un EP voilà. Combien de titres?
Donc là c'est un EP 4 titres. Alors
qu'on peut trouver où alors?
Alors on pouvait l'écouter partout sur tous les sites de streaming. Pour l'instant il est plus disponible. On peut l'écouter tout de même sur YouTube. Il est plus disponible parce qu'il va ressortir en version de luxe, si on peut dire, avec un autre artwork et deux morceaux supplémentaires en attendant la sortie du premier album. Mais on peut quand même trouver les titres sur YouTube pour les écouter de toute façon.
Et l'album est prévu pour?
L'album est prévu pour printemps 2017 a priori. Donc il est.
Ça fera l'objet d'une émission.
Eh ben écoute très volontiers, voilà, hein, ça sera avec plaisir quoi. Donc,
tu viendras avec ton clavier, ta guitare, et tu pourras même jouer en.
Tout est possible, ouais, tout est possible. Ça sera avec plaisir quoi.
Et là, on va écouter donc un titre de ta composition.
On va écouter Flash, qui est un morceau assez représentatif du style, je pense, qui est le numéro 1 sur le P, quoi.
Voilà, Hervé, rappelle-nous ce titre et le nom du groupe.
Donc on vient d'écouter Flash, ça s'appelle Aura Shred, et le premier EP s'appelle Hellface.
Très bien.
Et ben voilà.
Et voilà. Et tu es également bassiste du groupe Porn avec Philippe là, qui est
exactement
avec nous. Donc Philippe, toi, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Ou d'arc, oui, à tes cordes.
Plus tu mets de cordes. Si tu mets beaucoup de cordes, ça s'appelle une harpe.
Une harpe, oui. Alors, tu es écrivain, compositeur, qu'est-ce que j'ai vu aussi, DJ maintenant, parolier forcément, enfin bon, tu fais plein de choses.
Oui, DJ plus depuis un moment.
Ouais, enfin bon.
Mais oui, j'ai fait un peu. C'était amusant.
C'était peut-être pour gagner ta croûte.
Bah, tu sais quoi, paradoxalement, quand j'ai mixé dans certains lieux à Lyon, et quand tu veux jouer avec ton groupe, personne ne te paye. Par contre, quand t'es DJ, on te paye et t'as un cachet.
Ah bah voilà.
C'est quand même assez hallucinant. Hein.
Ouais.
C'est quand même assez hallucinant. Et les musiciens, les DJ, certains sont des musiciens. Mais c'est tout à fait normal de payer un DJ, mais par contre, les musiciens, non. Enfin, c'est tout à fait normal de ne pas les payer.
Voilà, on va savoir pourquoi. Enfin, bah,
on sait. Ouais, c'est une dérive lente et...
Ouais. Alors, on va parler. Par contre, donc, tu as fait des choses intéressantes là, ces dernières années. Tu as sorti l'incontournable magazine.
Ouais.
Qui est un gratuit sur la région lyonnaise, mais pas que.
Oui. Hein.
Donc, tu peux nous parler un peu du.
Où
on le trouve, comment il est, de quoi il est constitué.
Brièvement,
qu'on y trouve.
Voilà, c'est un magazine gratuit qui parle de culture et puis de voyage. Que l'on trouve principalement en région lyonnaise, qu'on trouve également dans le Rhône Express, qu'on trouve aussi depuis septembre dans les agences Easy Lines partout en France. Les agences Easy Lines sont les agences de voyage bus. Et puis dans quelques lieux de dépôt à Paris. Voilà. Et il sort tous les deux mois.
Alors, c'est une jolie revue, d'ailleurs, un magazine.
Oui, oui,
hein,
oui, c'est un magazine, ça fait 67 pages, avec des articles, des entretiens, des news.
Sur la culture, voilà, en général.
Culture, et puis beaucoup de voyages aussi.
Voilà, de voyages, voilà. De sport, et puis des groupes locaux, régionaux.
Oui, de la musique aussi,
des interviews.
Principalement des groupes locaux, même si le magazine est devenu national, en quelque sorte. Via la distribution avec Easyline, je fais surtout la promotion à l'intérieur des groupes d'ici. Voilà.
Et on peut le trouver dans la région ?
Oui. Alors ici, on peut le trouver aux abattoirs.
Aux abattoirs, voilà. À Bourgogne-Jallieu. Voilà.
Ouais, exactement.
À la SMAC.
Oui.
Donc c'était un...
C'est bimestriel, tous les deux mois.
Tous les deux mois, c'est ça, ouais. Et puis donc ça, c'est toi qui es à l'origine également
oui,
l'incontournable magazine, mais également d'une autre revue.
Qui s'appelle Freak Sound.
Voilà, on peut trouver sur Internet. Enfin,
voilà, oui. Alors le magazine était dans sa première version en vente en kiosque, donc un magazine payant, qui parlait de rock et de métal, principalement de groupes français. Et là, on est en train de le basculer en gratuit, et en attendant de mettre tout ça en place, on va dire qu'il y a une version web qui est disponible à freaksound.fr. Voilà. Et puis sur Facebook également.
D'accord. Donc, que ce soit les deux magazines et le groupe, tout le monde peut vous retrouver sur les Facebook, sites, sans problème.
Avec Porn, c'est un peu plus compliqué.
C'est beaucoup plus
compliqué. D'ailleurs, je dis, pour ceux qui veulent nous trouver, il faut taper, pour Google, pour tomber tout de suite sur nous, il faut taper Porn Indus ou Porn le groupe ou Porn Lyon. Si vous tapez ça, vous allez tomber sur nous. Sinon...
Ouais, mais laisse les mecs se tromper, ça leur pose pas de problème.
Vous allez tomber sur d'autres choses.
Alors par contre, oui, alors du coup, ça m'amène à une question que je pensais pas poser, que je voulais pas poser, mais
elle ne la pose pas. Si tu peux la poser.
Pourquoi Porn, pourquoi avoir choisi ce nom? Mais j'ai une petite idée, parce que je vais aller voir un peu à droite, à gauche.
Alors il y a pas mal de raisons. Il y avait la raison simple. Celle qui a validé tout le reste, c'était, à l'époque, j'avais tout juste 20 ans ou 21 ans. Et il y avait ce côté qui, pour moi, doit être totalement consubstantiel à la vie d'un groupe de rock, c'est la subversion. Ça, c'est primordial. Si c'est pas subversif, c'est que tu fais pas du rock, tu fais pas du métal, en fait, tu fais de la variette un peu énervée. Donc ça, c'était extrêmement important. Pour moi, il est important que tu puisses pas dire à tes parents « j'écoute Porn ». y a ce côté de on va dire de subversion au sens sociologique du terme, c'est-à-dire de renversement entre guillemets de rapports moraux avec la génération qui te précède, donc les parents, on va dire. Pour moi, ça, c'était vraiment vraiment important. Ensuite, il y a aussi le côté hommage à Cure avec leur album Pornographie. Parce que c'est un groupe qui a beaucoup compté, qui compte toujours beaucoup, mais c'est, quand je dis qu'il a beaucoup compté, c'est que l'influence je pense même dans d'une certaine manière dans ma voix et dans ma manière de composer est vraiment a été très très influencée par les Cure. Voilà, je dirais que c'est les deux grandes raisons. Et ça m'amuse toujours de, par exemple, des fois, je sais plus qui c'est qui me disait ça, ouais, il y a ma mère qui a essayé de trouver porn sur internet, et elle m'a dit, mais je suis tombé sur peu de trucs.
Mec, je crois que c'est moi, je crois que c'est moi, mec.
Et ça m'amuse trop, en fait. Ouais, je trouve ça excellent.
C'est assez marrant parce que
c'est le nom de groupe où, des fois, en fonction de l'audience avec qui tu te retrouves, les gens avec qui tu retrouves, on te dit, ouais, tu joues dans un groupe, et tu dis, ouais, ça s'appelle porn. Tu dis pas le P, tu t'espères qu'ils vont mal comprendre. Moi, il m'est arrivé parfois dans certaines situations de dire ça s'appelle Born. Et les gens comprenaient Born parce que j'avais pas envie forcément d'en parler. Et puis moi, je suis assez discret sur ça en fonction des rapports sociaux que je peux avoir avec certaines personnes. Je parle pas forcément de mes activités musicales. Et puis, comme dans la musique, je parle pas forcément de mes activités littéraires ou autres. Et je trouve marrant cette idée-là de dire, ou même le petit, tu vois, qui a 14-15 ans, qui écoute porn, et qui doit le dire, je sais pas, à sa grand-mère ou ce truc, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Ah, c'est bien, ça, j'aime bien. ça s'appelle porn. Et ben, moi, ça me fait marrer. Je trouve ça vraiment, vraiment, même si pour nous trouver sur Internet, ça a été un gros problème. Et bizarrement, maintenant, ça l'est plus par rapport à, sur Facebook, par exemple, on a un flux fou de personnes qui passent sur la page de partout dans le monde, parce qu'en fait, dès qu'il y a marqué porn, comme il y a peu de choses en porn sur Facebook, parce que Facebook fait un peu la chasse à tout le monde,
ouais,
par rapport à ça,
c'est une complication supplémentaire.
Bah, en fait, ça l'est pas trop sur Google, oui, ça l'est par contre. Sur YouTube aussi, donc sur YouTube, pour nous trouver, faut m'écrire le nom d'une chanson. Si vous tapez porn, Call Me ou porn, The Fee ou n'importe quoi, vous allez tomber directement sur nous. Si vous tapez juste porn, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais ça a été compliqué, hein, quand même, ce nom. Et ça l'est toujours, hein, mais. Mais moi, ça m'amuse.
Ouais, ça donne lieu à des situations assez marrantes.
Ouais,
donc,
c'est intrigue. Et surtout, pourquoi
et surtout, quand tu fais pas gaffe, quand tu t'es habitué au nom du groupe, parce que moi, de toute façon,
oui,
le groupe, je connaissais le nom du groupe, je connaissais le groupe il y a longtemps. Et donc en fait, si tu veux, au bout d'un moment, pour toi, c'est juste le nom du groupe. C'est pas porn qui veut dire que du porn, tu vois. Et donc du coup, ça donne lieu à des situations très très marrantes, quoi. Les mecs te demandent ce que tu fais, tu dis ah ben tiens, ben maintenant je joue dans porn, machin, je les connaissais, tout ça. Et toi, tu dis ça comme si je joue dans tu vois.
Et souvent ils te disent quoi.
T'as un vieux blanc où t'as des situations bizarres, et en fait c'est que après coup ou pendant le truc tu vois la situation arriver, et là t'es en train de te dire ah ouais, faut que j'explique en fait. Et des fois tu passes complètement à travers, et il se passe des trucs assez drôle comme ça. Ou par exemple, quand tu es au boulot, il y a tes collègues et tu as ton ordinateur personnel à côté parce que tu as dû l'emmener. Et il y a un gros répertoire où il écrit porn, monsieur. Et les mecs passent. Et voilà. Alors tu as celui qui sait que tu joues dedans et qui te dit putain, tu dois être le seul mec que je connais où il y a un dossier porn sur son ordi qui ne le planque pas, qui est sur le bureau. Et tu as les mecs qui savent pas et qui passent et il se passe un truc bizarre et tu comprends après pourquoi. Des situations comme ça, du coup, il y en a tous les jours, c'est assez drôle.
Moi, je le dis assez directement. Souvent, on me dit, c'est le nom du groupe, c'est quoi? Je dis, bah, porn. Et on me regarde, je dis, comme la pornographie. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ni quoi que ce soit. Et puis, souvent, ils font, ah, t'as les curieux qui posent des questions, plutôt d'autres qui passent à autre chose.
Parce qu'on pourrait avoir peur également avec l'équipe, les clips. Mais bon, c'est pas le cas non plus.
Non. Après, ça aurait été trop facile. Ouais. En fait, c'est ça aussi que je trouve amusant. Et t'as plein de gens, je pense, qui sont super déçus. Même si, tu vois, sur Facebook, je vois qu'ils taguent le nom et ça. Et c'est assez marrant parce que les gens de l'industrie du X sont assez friands du groupe. Et je vois qu'ils partagent certains. Moi, j'avais une amie qui est actrice porno, qui ne l'est plus, qui maintenant est dessinatrice, qui s'appelle Katsuni, que j'ai connu à la fac, et qui avait un projet de tourner un film pour Canal+, ça s'est pas fait, et elle m'avait demandé l'autorisation d'utiliser certains morceaux, et puis moi j'avais accepté très naturellement, je dis bah oui, carrément, elle voulait utiliser Stiff Little Thing, et le film ne s'est pas fait, elle devait le réaliser, elle. Ça s'est pas fait, mais c'est des choses qui m'amusent. Mais ça aurait été trop évident si c'était super racoleur avec des nanas à poil partout, etc. Ça aurait pas été amusant, en fait, ça aurait été justement... trop facile, trop relou. Et quelque part, y a aussi dans ce nom l'idée de d'être un peu à l'image, un peu comme dans l'album Pornographie, c'est-à-dire le truc où tu te mets à nu, tu t'y vas à fond. Et quelque part, c'était un petit peu ce que je fais souvent, cette analogie dans l'idée de d'aller à fond dans ce que tu fais, c'est que par exemple, il y a des films qui ne sont pas des films gore, mais qui sont plus terrifiants que des films, on va dire, gore. Et quelque part, c'est pas l'intensité, c'est pas le nombre de sang qu'on va voir dans un film qui va déterminer son côté dangereux ou son côté dérangeant. Et en musique, c'est aussi pareil. Il y a des choses chez Gainsbourg qui sont 10 fois plus subversives que dans les groupes de métal actuels. Quand moi j'écoute certains groupes de métal actuels, putain, tu te dis, mais en fait, vous faites de la variété, vous vous en rendez pas compte. Et chez Gainsbourg, il y a des choses bien plus dangereuses d'un point de vue social, puisque le rock, c'est un fait social. C'est pas juste un truc de consommation que t'achètes, c'est un fait social. Il y a des choses bien plus dérangeantes dans certains groupes de variétés, enfin de variétés de chansons françaises, même du nougat ou autre, que dans des groupes de rock aujourd'hui. Hein. C'est, d'ailleurs, on le voit, plus il y aura de groupes de rock à la télévision, tous ceux qu'on voit, ils sont pas très dangereux. Hein. Ils vont pas ébranler le système.
Ah bah, il faut surtout pas.
Bah oui. Déjà. Bah oui.
Allez, on revient à la musique, parce que on a bien développé le sujet qu'on voulait parler.
Voilà.
Et on écoute maintenant.
Le morceau est Love Like War.
Amour.
To
Voilà, toujours en compagnie de Hervé et de Philippe du groupe Porn. Donc, alors, comment on écrit pour faire du rock indus au niveau des textes c'est quoi les thèmes que tu abordes?
Les thèmes ils sont multiples. Au début, pour le premier album, c'était parfois des trucs qui n'avaient pas forcément de sens, on va dire un petit peu soit poétique, soit qui exprimaient une forme de mal-être ou un petit côté dérangeant. Y a des titres, par exemple, qui parlent de, comme Soft Machine, Porn Machine, du solipsisme, c'est-à-dire le problème d'un individu qui s'imagine que tout le monde en fait n'existe plus quand il ferme les yeux. C'est une forme de maladie mentale. Quelqu'un qui s'imagine qu'Alex Kidd, qui était un héros de jeux vidéo il y a très très longtemps, est son meilleur ami. Il y a des morceaux par exemple comme Don't Be a Lady, qui dans le premier album qui faisait référence peut-être avec 10 ou 12 ans d'avance à, on va dire, ces histoires de genre, qui met en scène quelqu'un à qui le père ne dit ne sois pas une lady quoi. Après c'est très très varié. Pour From the Void to the Infinite, le dernier album, enfin le deuxième, j'ai essayé de travailler un concept assez global qui est à peu près raté parce que j'ai pas pu l'articuler comme je le souhaitais, avec l'évolution d'un personnage dans chaque morceau qui évolue pour finir mort dans le dernier morceau, No Dominion, avec un claquement de porte en fait qui pour moi était un claquement de cercueil. Et dans No Dominion, par exemple, il est mort, en fait, et il parle mort. Dans I Died Twice, en fait, il parle de sa première mort, entre guillemets. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose de
avec
un fil conducteur, mais que je n'ai pas expliqué comme je le souhaitais, parce qu'en fait, je trouvais que c'était pas assez bien pour pouvoir le dire, voilà, c'est un album concept. Et j'ai été frustré dans cette phase d'écriture des textes, et du coup, j'ai eu envie de m'exprimer, on va dire, de manière un petit peu plus différente, et c'est pour ça que je suis parti écrire ce premier roman, qui est Contoyen, dont on parlait tout à l'heure.
Voilà. Eh ben, on va écouter un dernier titre qui s'appelle
Soft Machine, Porn Machine.
Et là, ça parle de quoi?
Bah, justement, ce que je te disais, hein, le mec qui s'imagine qu'une fois qu'il ferme les yeux, tout le monde meurt et qu'il n'y a personne de vivant à part lui.
Ok, on a été ravis de vous avoir tous les deux, Hervé et
merci
Philippe.
Merci à vous, ça fait plaisir d'être venu ici, quoi. Ouais, grave.
Merci à Laurent.
Merci Laurent.
Et puis à bientôt.
Oui,
pour 2017.
Et puis aux abattoirs tout à l'heure.
Et aux abattoirs.
Ouais, aux abattoirs.
On va y aller. Allez, bye bye.
Merci.
Shame.